Europe 1, les carnets du monde. Jean-Sébastien Soldaini.
Birmanie ou Myanmar, appelez ce pays comme vous voulez. De toute façon, c'est un pays sous cloche. 2 mois maintenant que la junte a pris le pouvoir et écarté le gouvernement civil. 2 mois que les contestataires voient monter le niveau de répression par l'armée qui tire désormais à balles réelles sur son peuple. Au moins 600 morts selon des ONG, dont une 50aine d'enfants, des milliers d'arrestations. Et parfois même l'artillerie lourde avec des frappes aériennes au sud-est du pays. C'est là que se cachent des leaders du mouvement de désobéissance civile. C'est là que nous conduit Carole Izou, notre correspondante dans la région, à Mesot plus précisément. C'est du côté thaïlandais de la frontière, la Thaïlande devenue base arrière de la résistance birmane.
Au fond d'un restaurant discret, petite chemise et lunettes d'étudiant, Sojay regarde nerveusement par-dessus son épaule. Ce jeune politicien et directeur d'une ONG birmane a passé illégalement la frontière thaïlandaise il y a près d'un mois. Après l'arrestation et la disparition de plusieurs de ses collègues, il a décidé de quitter son pays pour rester en vie et continuer à se battre.
Je ne voulais pas quitter mon pays parce qu'on a besoin de gens sur le terrain. Les militaires ont commencé par s'attaquer aux députés du Parlement, de la Ligue pour la démocratie, puis petit à petit, ils se sont rapprochés de nous, la prochaine génération de leaders. Je participais bien sûr aux manifestations comme renfort, et ils se sont mis à viser précisément les gens qui restaient à l'arrière. Ce ne sont plus des manifestations aujourd'hui, c'est un champ de bataille. La police m'a appelé pour me menacer et je me suis dit qu'il était peut-être temps de partir.
Récolter des fonds, trouver un moyen de les transférer alors que les banques sont fermées, décider de la stratégie à suivre. Sojay n'est pas le seul à avoir choisi de quitter Rangoon. Des milliers de membres du mouvement de désobéissance civile, y compris certains leaders, sont aujourd'hui dans les zones frontières, sous la protection des groupes armés des minorités ethniques, et tout particulièrement chez les Karen, une communauté à cheval entre la Thaïlande et la Birmanie. Selon Pidomanman, porte-parole des autorités Karen, nourrir, protéger ces fugitifs demande d'importantes ressources dans des zones où la nourriture, l'eau et l'électricité sont déjà des denrées rares en temps normal.
Nous abritons de nombreux députés, des fonctionnaires en grève, mais il y a aussi des soldats déserteurs et des policiers. Ceux-là ne sont pas vraiment en sécurité. Nous, on essaie de leur fournir un abri, des moyens de communication, un endroit où ils peuvent travailler, organiser des meetings.
Pas facile d'assurer la sécurité de ces résistants. Depuis plus d'une semaine, de violents affrontements ont repris dans les territoires Karen. Les premières frappes aériennes de l'armée birmane depuis 20 ans dans la zone ont fait au moins une quinzaine de morts et provoqué la fuite de milliers de personnes vers la Thaïlande. Désormais, une grande partie de la lutte contre la junte repose sur les armées ethniques qui menacent de s'unir et d'ouvrir des camps d'entraînement pour former les étudiants des villes aux techniques de combat. C'est ce qu'affirme Sonaitu, directeur d'une ONG Karen et proche des forces armées.
Bien sûr, si les étudiants veulent venir ici, apprendre à se battre, à se défendre, à utiliser des armes à feu, on les formera. Et ensuite, ils pourront rentrer chez eux, reprendre le combat dans leurs villes respectives. Nos groupes armés ethniques sont prêts à les aider.
Un projet qui fait planer le spectre de la guerre civile. Mais avant de s'engager fermement, les leaders ethniques attendent des garanties sur un nouveau pacte national qui offrirait plus d'autonomie à leur province et de contrôle sur les ressources naturelles. Une révolution dans un pays où la majorité ethnique Bamar a toujours contrôlé le pouvoir. Pour Neyu Mutro, chercheuse basée en Thaïlande, sous l'impulsion de la jeunesse, la société birmane est désormais prête à un tel changement.
Depuis l'indépendance en 1948, la société birmane pratique l'oppression, la discrimination et le racisme. Regardez ce qu'il s'est passé avec les Rohingyas, ce que les citoyens d'origine indienne et chinoise doivent subir. La jeunesse rejette tout cela. Nous ne voulons plus faire partie d'une société oppressive. Nous voulons être libres dans nos pensées, nos actes, nos vies. La jeune génération redéfinit courageusement quel genre de société nous pourrions, nous devrions être.
Derrière la résistance aux militaires, il y a donc le projet d'une nouvelle société birmane, radicalement différente, plus diverse et plus égalitaire. Les jeunes Birmans appellent déjà leur mouvement la révolution du printemps. À Mesot, Carole Izou pour Europe 1.
Carole Izou est avec nous en ligne de Bangkok. Bonjour Carole.
Bonjour.
Dans les grandes villes, la junte mène une politique de terreur pour écraser les manifestants. Dans les campagnes, la donne est tout à fait différente. Vous nous expliquez dans votre reportage le rôle joué par les armées ethniques. Le combat repose désormais en grande partie sur ces armées. C'est un vrai enjeu ?
Et oui, c'est un vrai enjeu parce que ces groupes, ce sont en fait les branches armées des mouvements autonomistes de nombreuses régions birmanes, qu'on appelle d'ailleurs des États, plutôt situés dans les régions frontalières. Il faut savoir que ce pays, finalement, qu'on appelle la Birmanie, cette union de différentes provinces qui ont des cultures, des langues très différentes, c'est quelque chose d'assez récent, qui date du 19e siècle. Et les luttes avec le pouvoir central pour l'autonomie n'ont jamais cessé. Les effectifs de ces milices ne sont pas énormes, c'est vrai, l'armée Karen, par exemple, revendique 7000 soldats, 4000 pour les Kachin, 2000 pour les Chan. On est loin des effectifs de la Tatmada ou l'armée birmane, mais ils ont l'avantage de connaître le terrain, un terrain extrêmement difficile puisqu'on parle de régions couvertes de jungles, de montagnes, et donc leur soutien à la lutte armée peut tout changer. C'est en fait le vieux rêve d'une armée fédérale qui date du mouvement anti-coup d'État de 1988 déjà.
Alors à l'époque, ce projet d'union militaire entre les factions ethniques et les étudiants des villes avait échoué. Pourquoi et est-ce qu'ils peuvent réussir aujourd'hui ?
Alors, ils avaient échoué pour plusieurs raisons. D'abord, il faut se souvenir qu'on parle d'une période pré-internet, donc les résistants dans ces régions de jungle, dans des conditions souvent très difficiles, n'avaient pas de moyens de communication. C'était un peu comme de se battre dans le noir, me disait il y a quelque temps une ancienne militante. Et puis, ils mettent ça aussi sur le compte d'une certaine attitude des élites de la majorité ethnique Bamar envers les minorités. Très autoritaire, très ethnocentrée, peut-être un peu condescendante et pas prête surtout à leur accorder les droits qu'elles réclamaient. Et les minorités avaient fini par se désengager. Aujourd'hui, il y a un véritable changement de mentalité sur ces questions. C'est une occasion pour les minorités de renégocier leurs relations à l'État central en échange, bien sûr, de leur soutien armé.
La junte est très forte dans les villes. Elle peut lutter dans les provinces. Elle a des appuis.
Alors elle en a très peu au sein de la population civile, mais assez puissant, par exemple dans les milieux d'affaires, parce que l'armée en Birmanie possède aussi les deux plus grandes entreprises du pays, des conglomérats qui œuvrent dans tous les domaines, les mines, l'alcool, l'agroalimentaire, les infrastructures, la construction. Donc elle a des soutiens chez les hommes d'affaires impliqués dans ces activités. Et puis elle a aussi quelques relais chez certains moines puissants. Alors pas tous les moines, bien sûr, beaucoup sont dans les manifestations aux côtés des résistants. Mais c'est vrai qu'au contraire de ce qu'on a appelé, vous vous souvenez peut-être, la révolution Safran en 2007, Safran justement à cause de la couleur de la robe des moines, parce que c'était un mouvement emmené par le clergé, dans un contexte très différent, puisque là, l'élément déclencheur de la révolte était d'ordre économique, c'était la hausse des prix qui étouffait le peuple birman. Eh bien, cette fois, les moines sont moins nombreux à soutenir ouvertement le mouvement, et en multipliant les donations, les visites à des monastères importants, et en répétant que seule l'armée était capable de protéger la religion et les traditions, le chef de la junte s'est assuré du soutien de certains moines. Aujourd'hui, la bataille, c'est aussi celle de l'information. Dans les médias qui leur appartiennent, les militaires présentent les insurgés comme des terroristes qui bloquent l'économie du pays. Ils mènent une offensive pour rallier le plus possible l'opinion publique à leur cause.
Et nous voyons depuis quelques semaines que les manifestants parviennent à contourner les coupures d'Internet pour essayer de nous montrer, de témoigner de ce qu'il se passe dans ce pays très fermé. Merci Carole Izou, correspondante d'Europe 1 en Asie du Sud-Est. À bientôt dans les carnets.
À bientôt.
Alors nous quittons la Birmanie pour nous rendre dans un instant au Brésil. En plus de l'épidémie de Covid, la faim frappe les habitants des favelas. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde. Jean-Sébastien Soldaini.
S'il y a bien un endroit où la pandémie frappe durement les populations, c'est le Brésil. Là-bas, le déni et les choix hasardeux du président Bolsonaro enfoncent le pays dans une spirale mortifère. 4000 morts par jour. Le chiffre atteint cette semaine fait plus que froid dans le dos. Les cimetières submergés ne parviennent plus à enterrer dignement les morts du Covid-19. Crise sanitaire doublée d'une crise économique. Des millions de Brésiliens sont plongés dans la précarité. Et c'est un autre danger qui les guette désormais. La faim. Marino Dacher s'est rendu dans une favela de São Paulo où les habitants alertent comme ils le peuvent sur leur situation.
Ils sont des centaines, debout, espacés de plusieurs mètres au bord d'une grande avenue, avec leurs visières, leurs masques et surtout une grande casserole vide à la main. Une manifestation silencieuse devant un supermarché du riche quartier de Morumbi, à la lisière de la favela de Paraisopolis. Ils dénoncent la faim qui concerne de plus en plus d'habitants ici. Ce coup de communication organisé par l'une des associations du quartier rassemble des dizaines de photographes et de caméramans car l'image est forte pour dénoncer les inégalités sociales. D'un côté, les immeubles des classes aisées, de l'autre, les baraques en briques rouges de la favela.
Je représente des milliers de femmes chefs de famille.
Flavia Rodriguez préside l'association des femmes de Paraisopolis.
Elles manquent de tout chez elles. Elles ont perdu leur travail et ne peuvent plus rien offrir à leurs enfants parce que l'aide d'urgence du gouvernement ne leur permettra même pas d'acheter assez de nourriture. La faim n'attend pas. Seuls ceux qui ont déjà eu faim savent ce que c'est. C'est difficile pour une mère de se réveiller, voir ses enfants affamés et ne rien avoir à leur proposer parce qu'il n'y a rien dans le réfrigérateur.
Pour mobiliser et obtenir des dons, il faut ici comme ailleurs passer par les réseaux sociaux et les hashtags. Ce groupe a choisi hashtag panelas vazias, hashtag casserole vide, très près de la réalité. Et un clin d'œil à ces panelas, ces concerts de casseroles et de cris qui retentissent certains soirs dans les quartiers résidentiels, surtout quand le président Bolsonaro s'exprime à la télévision. Pour Gilson Rodriguez, président du groupe G-Days Favela, la situation est catastrophique et aucun politique n'est digne de confiance. Il faut donc compter sur les dons.
On est devant un supermarché. Le prix de la viande est absurde, celui du riz et des haricots aussi. C'est une calamité publique. Un profond manque de respect vis-à-vis de la population. On a honte de devoir venir ici, sur cette belle avenue, dans un quartier chic, pour dire que les casseroles sont vides. On nous traite comme des marginaux, des violents. On veut juste l'opportunité d'améliorer nos vies. Avant, les gens pensaient qu'on allait tout casser. Alors on a fait cet acte pacifique pour montrer simplement qu'on a faim. Une casserole vide dit plus que n'importe quel mot.
De l'autre côté de cette favela de plus de 100 000 âmes, l'heure du déjeuner approche. Des centaines de personnes font la queue pour recevoir une marmite, un plat en aluminium qui nourrira leur famille. La chaleur est écrasante, il n'y en aura pas pour tout le monde, car les dons ont fondu à cause de la crise. Célia attend son tour, à l'ombre. Elle a 11 enfants, dont 4 petits de 7, 6, 5 et 3 ans qui vivent avec elle, et elle ne peut les nourrir que grâce aux associations.
Là, je n'ai plus rien à manger chez moi. J'ai laissé mes enfants à la maison, je leur ai dit « bougez pas, je vais chercher le déjeuner et je reviens ». J'ai préparé du riz et on va tout mélanger pour en donner à tout le monde. Avec les 250 réals du gouvernement, je n'achète rien. Tout est cher. J'achète 3 bricoles, des gâteaux, du jus de fruits et du pain industriel et ça ne dure même pas une semaine. Les enfants, ça mange beaucoup, c'est comme ça. Qui pense à moi ? Dieu, du temps de Lula, c'était différent. Lula, lui, nous aidait. Il était de notre côté. Pourvu qu'il revienne, c'était un bon président.
Célia reçoit 375 reals de Bolsa Familia, 56 euros, une allocation créée sous les gouvernements Lula au début des années 2000 pour hisser les plus pauvres au-dessus du seuil de pauvreté. Quant à l'aide d'urgence qui devrait être distribuée ce mois-ci à nouveau par le gouvernement Bolsonaro, elle a été amputée de moitié. Les familles les plus modestes recevront 300 reais, 45 euros, alors que plus de la moitié des Brésiliens n'ont pas d'emploi stable. Les personnes seules, comme Jaime, 56 ans, reçoivent la moitié, 150 reais, 22 euros.
J'ai déjà vécu dans la rue, mais j'ai remonté la pente et je ne veux pas sombrer à nouveau. Aujourd'hui, j'ai un loyer à payer, mais je n'ai plus de revenus. Comment je fais ? L'aide d'urgence est dérisoire. Je suis recycleur, j'aurais besoin que quelqu'un m'aide à acheter un vieux combi pour travailler. Mais c'est impossible. Allez, Dieu vous protège.
Jaime s'éloigne avec sa marmite. Ce sera son seul repas de la journée. Les bras se tendent vers les plats, distribués rapidement avec un sourire par les bénévoles. Une cadence rapide, soutenue par le travail d'une dizaine de femmes en cuisine. D'immenses casseroles, de larges cuillères en bois font rissoler les oignons. Elles y ajoutent le riz qui nourrira encore des dizaines d'estomacs. Les aliments sont assemblés dans des assiettes en aluminium qui s'étalent sur une grande table. Juliana coordonne cette équipe et s'arrête quelques minutes pour raconter ce qui se joue ici.
Ça fait un an qu'on fait ces marmites pour lutter contre la faim à Paraisopolis. Mais on a du mal à maintenir ces dons. Aujourd'hui, on a 2000 marmites avec du riz, de la saucisse, de la purée de pommes de terre. Aujourd'hui, ces plats, c'est de l'espoir, ça sauve des vies. C'est plus que de la nourriture, c'est redonner la dignité aux personnes. Mais souvent, on n'a que des pâtes à offrir. On n'attend rien des politiques. Il ne faut pas penser droite ou gauche. Il faut regarder le peuple, ceux qui ont faim, ceux qui meurent du Covid. 350 000 Brésiliens sont morts du coronavirus et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, ceux qui agissent sont les leaders communautaires des favelas, les activistes et la société civile.
Le confinement est impossible pour ceux qui vivent dans les favelas. Seuls 40% des paulistanos peuvent encore respecter le confinement. Les autres sont obligés de prendre les transports en commun bondés pour aller travailler. Enfin, pour ceux qui ont encore un salaire à rapporter chez eux. Paraisopolis, São Paulo, Marino Dacher, Europe 1.
Bonjour Marino Dacher.
Bonjour Jean-Sébastien.
Correspondante d'Europe 1 au Brésil, vous avez tourné ce reportage qui montre à quel point le Brésil souffre. Et dans ce reportage, vous nous présentez Célia. Cette femme évoque le président Lula. Il dirigeait le pays dans les années 2000. Il était impliqué dans une affaire de corruption, empêché de se présenter à la dernière présidentielle. Mais Lula revient dans le jeu politique, totalement blanchi.
Oui, celui qui a dirigé le Brésil de 2002 à 2010 a retrouvé ses droits politiques à l'issue d'un feuilleton judiciaire dont il est aujourd'hui prouvé qu'il visait à empêcher Lula de se présenter en 2018. Lula qui avait été condamné pour des soupçons de corruption et emprisonné, il est aujourd'hui blanchi et affrontera très probablement Bolsonaro en 2022. Alors cela change l'équilibre des forces politiques au Brésil, alors que le président Bolsonaro, d'extrême droite, n'a pris aucune mesure pour ralentir la propagation du virus.
Crise politique, crise sanitaire, le gouvernement Bolsonaro semble à la dérive.
Oui, l'armée brésilienne occupe encore la moitié des portefeuilles du gouvernement et la vice-présidence. Mais il y a quelques jours, trois hauts chefs militaires ont démissionné. Cela montre les difficultés que connaît Bolsonaro à rassembler. Sa popularité est en baisse alors qu'au moins 350 000 Brésiliens sont morts du Covid. On a encore près de 4 000 décès par jour depuis mi-mars. Bolsonaro est anti-masque, anti-vaccin, anti-confinement. Résultat, l'épidémie progresse toujours. La moitié des États du pays ont un taux d'occupation des lits en soins intensifs supérieur à 90%. C'est inédit. Les hôpitaux privés réservés à ceux qui ont une mutuelle ne garantissent pas ou plus de sauver les plus riches. Et puis ce variant brésilien encore plus contagieux et mortel avance plus vite que la vaccination. Les pays voisins ont même fermé leurs frontières aériennes avec le Brésil. Le journaliste Leonardo Sakamoto qualifie même Bolsonaro de croque-mort de la République. Pour vous donner une idée, le Brésil c'est moins de 3% de la population mondiale et la BBC calcule que le mois dernier, 3 morts sur 10 dans le monde étaient brésiliens. Donc 30% des victimes mondiales.
Et dans ce contexte, Marie, le confinement n'est absolument pas tenable au Brésil.
Non, parce qu'en fait, il n'existe pas de système de protection sociale. Ici, plus de la moitié des Brésiliens sont des travailleurs informels, payés à la journée, donc pas déclarés. Le chômage touche maintenant 14% de la population. Et puis, le télétravail n'est pas la réalité de la majorité ici. Ces jours-ci, l'aide d'urgence a repris après 4 mois de suspension, mais elle est amputée de moitié, entre 150 et 375 reais. Ça fait de 22 à 56 euros, pas assez pour permettre aux plus modestes de se nourrir et de rester chez eux pour se protéger du virus. Et surtout de la faim. Une étude de l'Institut Locomotive a calculé que dans les favelas, la majorité des habitants ne font même plus 2 vrais repas par jour.
Cette situation, plus que dégradée, c'est un boulevard pour le retour de Lula ou bien c'est plus compliqué que ça ?
L'ex-président Lula a fait un discours le 10 mars au syndicat de la métallurgie à San Bernardo do Campo et il a lancé à la presse « J'étais heureux quand un travailleur me disait « je vais manger de la bonne viande et boire une bière ». Le prix de la viande a doublé depuis que Bolsonaro est au pouvoir en presque 3 ans. Le riz et le haricot noir, les aliments de base ici au Brésil, ont pris entre 20 et 30% selon les régions. Alors Lula, qui a dirigé le Brésil pendant 8 ans, rappelle que son gouvernement en avait fini avec la faim au Brésil. Aujourd'hui, 19 millions de personnes ont faim, c'est 2 fois plus qu'en 2018, quand Bolsonaro a été élu à la tête du pays. Donc oui, Lula est de retour comme leader historique de la gauche brésilienne et il montre bien que le projet d'extrême droite de Bolsonaro, ultra-libéral, n'est absolument pas de protéger les plus faibles.
Merci Marino Dacher pour vos lumières sur le Brésil que nous continuerons à suivre de près dans les carnets du monde avec ce duel que vont se livrer Jair Bolsonaro et Inácio Lula da Silva. À bientôt Marie.
À bientôt Jean-Sébastien.
Le Brésil, c'est aussi synonyme d'aventure. L'aventure, il en sera question dans notre chronique culture. Nicolas Caro nous emporte dans les eaux glacées du Yukon, en Alaska. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde. Jean-Sébastien Soldaini.
C'est l'heure de notre chronique culture dans ces carnets du monde. Cette semaine, nous partons à l'aventure. Aventure littéraire en compagnie de notre spécialiste livre européen, Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Sébastien.
Vous nous proposez un sacré changement de température. Nous étions avant vous en Thaïlande et au Brésil. Donc vous nous proposez une escale dans le Grand Nord américain à la rencontre des saumons.
Et en compagnie d'Adam Weymouth, pardon pour la prononciation, il est anglais. Un jour, il a décidé de prendre un canoë et de remonter le Yukon, le fleuve qui traverse le Canada, l'Alaska, jusqu'à la mer de Bering.
Ça fait une bonne balade.
Ah bah 3000 km, mais pas juste pour le plaisir de flâner dans le froid. Il a voulu suivre les saumons royaux, connus aussi sous le nom de Chinook. Vous savez, c'est la poésie des saumons, ça. Ils naissent en amont du fleuve, ils descendent, et ensuite ils remontent tout pour pondre leurs œufs, et ainsi de suite. C'est le cycle des saumons, et Adam Weymouth nous raconte son voyage dans ce livre, chez Albin Michel, Les Rois du Yukon.
C'est un récit de voyage, c'est romancé.
C'est à la croisée de plusieurs styles, tout est vrai. Ça pourrait être un reportage, mais quand j'ai vu que c'était édité par le grand éditeur de romans américains Francis Geffard, je me suis dit, c'est une sorte de, sans doute de grand récit américain, comme ça, de nature writing, vous savez, la littérature des grands espaces. Et bien c'est un peu tout ça finalement, Francis Geffard.
Ça tient déjà au style, ça tient également à la culture, ça tient aussi au travail de synthèse qu'il a effectué avec ce livre qui tient tout à la fois du reportage, mais aussi un peu du manifeste, du livre de nature. Chez lui, tout est dans tout. Et c'est vrai qu'il a un style très particulier qui est propre à toute une génération d'écrivains voyageurs britanniques. On pense bien entendu à Bruce Chatwin, mais on pense aussi à des gens comme Colin Sobron ou Patrick Lefarmore et tant d'autres. Voilà, c'est vrai que les Anglais ont une façon assez particulière de voyager et de faire le récit des voyages qu'ils entreprennent, lesquels voyages sont toujours assez chargés en considération sur le monde ou en question métaphysique.
Tout est dans tout et tout est dans le style finalement.
Exactement. Tiens, je vous lis un passage, vous allez comprendre. L'agent Brett Scott Gibbons vint à la barre où il déclina son identité et jura sur la Bible. Il avait une moustache tombante, d'un blond roux, un visage bienveillant malgré son expression sombre et triste, et à le voir ainsi se tenir bien droit à la barre, avec son uniforme et son gilet de protection, on l'imaginait incapable de dire autre chose que la vérité. C'est pas mal, hein ? Vous voyez, c'est écrit comme un roman, mais c'est un récit en fait, c'est un manifeste.
Et c'est un écrivain reconnu, cet Adam Weymouth ?
Maintenant, oui. Sacré jeune écrivain de l'année en Grande-Bretagne, mais c'est son premier livre. Francis Geffard nous le présente.
Au départ, c'est un journaliste qui a surtout couvert les questions relevant de l'environnement, de l'écologie. Et c'est en commençant à écrire des articles pour The Guardian qu'il a fait connaissance avec cet endroit si particulier et si éloigné qu'est le Yukon. Et son premier livre, Les Rois du Yukon, est né de cette attention aux choses, au monde, et est né d'articles qu'il a écrits pour The Guardian et qui lui ont donné envie d'entreprendre une démarche d'écriture au long cours.
Il y a donc une forte dimension environnementale dans ce travail.
Absolument, mais avec un œil nouveau et avec la bonne idée, aller voir là où l'homme n'est pas.
On est habitué à ce que la nature soit abîmée quand elle est au contact des hommes. Et l'intérêt du livre d'Adam Weymouth, c'est de choisir un endroit qui est extrêmement sauvage et où les hommes n'ont pas véritablement marqué de leur empreinte l'environnement. Et c'est vrai que dans cet endroit et sur ce fleuve, le Yukon, qui est l'un des rares fleuves au monde qui n'ait pas été dompté, qui ne soit pas embarrassé par un ou plusieurs barrages, est bien forcé de constater que dans cet endroit-là et également la nature est extrêmement abîmée, puisque ces saumons qu'à une époque on décrivait comme pesant plus de 50 ou 60 kilos, qui étaient si nombreux que l'on pouvait traverser le fleuve en marchant, eh bien ils sont de plus en plus rares, ils sont loin de peser le poids leurs ancêtres.
50 kilos de poisson, c'est du costaud.
Oui, je suis allé voir des images d'archives sur internet, c'est impressionnant. On dirait des thons ou des espadons. Ils font vraiment la taille d'un homme. Ce qui est triste, donc, c'est qu'il faut aller chercher dans les archives maintenant pour les voir. Ouais. Maintenant, ils font 10 kilos pour 50 centimètres.
À peine.
L'espoir, quand même, c'est qu'à la fin du livre, Adam Weymouth arrive au bout et les œufs vont éclore. mort. Et à chaque fois, c'est quand même une occasion de se dire que la vie peut revenir.
Et les Chinooks donc restent de toute façon les rois du Yukon. C'est le titre de ce livre chez Albin Michel, traduction faite par...
de Bruno Bouda.
Merci Nicolas et à tout à l'heure pour La Voix et Livres.
À tout à l'heure.
Nous restons dans les livres. Dans un instant, nous recevons Vincent Hugeux, grand reporter et essayiste pour son livre Tyran d'Afrique.
Europe 1, les carnets du monde. Jean-Sébastien Soldaini.
Nous entrons désormais dans une galerie de portraits, mais peut-être faut-il parler d'une galerie de caricatures, tant les 10 personnages présentés disposent en tout ou partie du parfait attirail du dictateur. Bonjour Vincent Hugeux.
Bonjour.
Grand reporter, fin connaisseur de l'Afrique, vous publiez aux éditions Perrin un ouvrage intitulé « Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial ». Autour de personnages principaux, on croise les fantômes de la France-Afrique, Yasser Arafat, de truculents ambassadeurs, tous rôdent auprès de ces 10 satrapes, comme vous aimez les qualifier, mégalomanes, ultra-violents, manipulateurs, tantôt ridicules, tantôt très droits dans leurs bottes de militaires. Parmi ces 10 dictateurs africains, c'est lequel votre préféré, si j'ose dire, Vincent Hugeux ?
Celui qui ouvre le bal, parce qu'il raconte autant son histoire que la nôtre. Je fais évidemment allusion à Sa Majesté impériale Bokassa Ier, que je qualifie à un moment donné d'empereur made in France, car il l'a été. Et là aussi, jusqu'à la caricature. Et paradoxe dans le paradoxe, le personnage a des aspects attachants. Ce que j'ai voulu quand j'ai arrêté mon casting, car il y avait énormément d'appelés et peu d'élus, et d'ailleurs beaucoup n'ont jamais été élus, je me suis dit, au fond, il faut que tous aient une dimension romanesque, fût-ce dans l'abjection. Mais Bokassa, oui, parce que quand vous vous replongez dans les archives, archives papier, vidéo, à un moment donné, vous arrêtez, vous dites « je me pince ». Est-ce que c'est une fiction ou est-ce que ce que je suis en train de voir, de lire, est conforme à une réalité historique ? Eh bien, le plus navrant, c'est que la réponse, c'est que oui. Et quand vous avez aujourd'hui des gens, je pense par exemple à Robert Gallet, ministre qui ne savait plus où se mettre, car le cousin Valéry Giscard d'Estaing adorait les safaris, mais pas au point d'aller apporter sa caution républicaine à cette sorte de pantomime impériale. Eh bien, Robert Gallet disait « j'ai cru périr de honte ». Parce que même là, à un moment donné, on se dit « mais à quelle folie est-on en train de s'associer ?»
On a l'impression que toute la salle, vous parlez du couronnement de Bokassa, on a l'impression que toute la salle meurt de honte.
Mais oui, parce que c'est tellement ridicule que, d'une part, c'est une noria d'avions militaires ou civils français qui acheminent tout, y compris les chevaux, dont la plupart vont crever dans la touffeur de Bangui.
Cette histoire de chevaux, c'est dingue.
Les gâteaux, les pièces montées, les colombes qui ne décolleront jamais car elles seront terrassées par la touffeur locale. Et puis, ça, c'est pour l'aspect peut-être le plus anecdotique, mais il y a beaucoup plus grave. C'est la lecture politique. Car au fond, Bokassa, c'est qui ? C'est un vaillant soldat de l'armée française, francophile jusqu'à la démence, d'une certaine manière, et qui, à un moment donné, est propulsé sur la avant-scène avec l'aval de la France officielle, et congédié comme un domestique le jour où il a cessé de plaire, où il est devenu un ami encombrant, et où il a entrepris un flirt un peu appuyé avec Muammar Kadhafi, grand ennemi de la France de l'époque.
Alors, il y a Bokassa, Mobutu, c'est des noms qu'on connaît, mais il y en a un qui passe sous les écrans radars pour le grand public, c'est Isaias Afewerki, en Érythrée. Presque inaperçu, mais vous le comparez à Kim Jong-un.
C'est-à-dire qu'on dit souvent que, en gros, son pays, donc l'Érythrée, qui est né de la scission de l'Éthiopie après la fin du régime afro-marxiste de Mengistu, on dit souvent que c'est la Corée du Nord de la Corne de l'Afrique. Bon, alors ces analogies géopolitiques sont toujours un peu aventureuses, mais je trouvais que c'était assez intéressant de réfléchir à ce qu'a été la trajectoire d'un type qui est, alors pour le coup, extrêmement revêche, qui n'a aucune couleur, qui est un taiseux, sinistre, dont on dit qu'il entretient des relations assez intenses avec quelques breuvages alcoolisés. Mais toujours... Et donc, c'était aussi une manière de jeter la lumière sur une région et un personnage méconnu, mais qui, hélas pour son peuple, mérite amplement de figurer dans cette sélection.
Entre les deux, tous se ressemblent plus ou moins dans leur vie, dans leur parcours respectif. S'ils en arrivent là à prendre le pouvoir, à ne plus le lâcher, tant pis pour les vies humaines, hein, c'est parce qu'ils sont le fruit du passé colonial.
Il y a quelque chose de vraiment troublant, je dirais un invariant dans ces trajectoires. Même ceux qui ont construit leur légende, populiste, démagogue, au besoin, sur la fracture avec l'ordre colonial ONI, même cela, vous apercevez qu'ils ont entretenu une relation intime. Je vais prendre juste deux exemples. Le Togolais Niasingbe Yademan, il a été lui aussi un loyal serviteur de l'armée française qui entonnait volontiers la madelon entre des brochettes pimentées et du champagne brut rosé tiède. À 9h du matin, c'est dur. Bon, eh bien, il a une histoire française. Mais prenez même le Robert Mugabe, le désolant Robert Mugabe, qui est le héros de la ligne de front anti-apartheid avant de devenir le fossoyeur de son pays et de faire du grenier de l'Afrique australe un pays qui quémande du maïs, du riz et du blé à l'extérieur. Eh bien, Mugabe envoyait des lettres extrêmement déférentes à sa gracieuse majesté et au premier ministre de celle-ci, à un moment où son épouse était détenue dans une prison londonienne pour obtenir son élargissement. Donc, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, viré dans une sorte d'hostilité compulsive envers l'ancienne puissance coloniale par dépit. Alors, on peut toujours dire que c'est du dépit amoureux, mais on sait très bien que dans le dépit amoureux, il y a toujours beaucoup plus d'amour que de dépit. Regardez, on est dans une séquence incroyable. Vous avez des élections au Congo. 88% pour le sortant Sassou. Pourquoi se gêner? Vous avez des élections là dans les jours qui viennent dans un pays comme le Tchad, allié extrêmement précieux mais ô combien encombrant de la France dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Vous avez un pays comme le Bénin, la Sorbonne de l'Afrique de l'Ouest, le pionnier de ce qu'on appelait les conférences nationales qui ont bousculé la logique de parti unique au début de la décennie 90. Et vous avez là un président sortant qui fait le vide autour de lui et qui va affronter courageusement deux faire-valoir qui n'ont aucune chance d'aller au-delà de 10%. Donc, je veux dire, la séquence, elle nous raconte aussi ça. Cette sorte de persistance rétinienne des mauvais réflexes du fait colonial. Et attention, moi, je suis totalement et définitivement réfractaire à tout essentialisme. C'est ce que j'écris dans le prologue du bouquin, d'ailleurs. Il n'y a aucune malédiction, il n'y a aucune fatalité. Le plus frappant, c'est l'écart de plus en plus abyssal entre ces pratiques parfaitement anachroniques et les aspirations de jeunesse africaine connectée, ouverte sur le monde, avide de liberté et d'échange.
Mais vous avez l'impression que ça continue aujourd'hui. Là, vous l'avez décrit au travers d'élections, mais il y a le Mali, par exemple. Il y a des militaires qui ont renversé Ibeka.
Oui.
Pendant quelques jours, il n'y a eu aucune réaction de la France. Ça s'explique comment? On laisse faire, on voit comment ça tourne?
Je vais vous dire la vérité. Ça s'explique tout simplement parce que lorsque vous évoquiez la performance, il est vrai, assez désolante de Ibrahim Boubacar Keïta, donc Ibeka, le président renversé en août dernier par un putsch militaire vintage à l'ancienne, les conseillers élyséens ou les gens du Quai d'Orsay levaient les yeux au ciel en soupirant. Donc on a faim de condamner pour le principe une pratique réprouvée par tout le monde, par l'Union africaine, par l'ONU, par la France, par l'Union européenne, etc. Et en réalité, il y avait une forme de lâche soulagement dès lors qu'on avait la conviction, c'est pas si simple au quotidien, que l'on pourrait pactiser avec ces militaires et qu'il y aurait une continuité dans la stratégie anti-djihadiste au Sahel.
Bah justement, la lutte anti-djihadiste, elle a remplacé les ressources en uranium de l'époque pour fermer les yeux, c'est ça?
Le plus frappant, c'est que tous ces despotes d'hier et d'aujourd'hui sont passés maîtres dans l'art de tirer le meilleur parti de la rente de situation géopolitique que leur vaut la priorité accordée par la France à cette lutte contre le djihadisme. Évidemment qu'on a baissé notre mire démocratique, parce que la priorité du moment, ce qui est d'ailleurs un choix politiquement défendable, c'est elle est sécuritaire.
Il y a le bon coup d'État et le mauvais coup d'État, comme dit Ahmed Sékou Touré, un autre dictateur que vous dépeignez. C'est quoi un bon coup d'État?
Non, évidemment, c'est la beauté des oxymores, un bon coup d'État. C'est-à-dire que, il n'y a pas de bon coup d'État. Mais, vous savez, lorsque un coup d'État permet d'évincer un fou furieux fait massacrer et torturer dans la sécu de Basse-Fosse tout ce qui ressemble à un opposant réel ou fantasmé, à ce moment-là, oui, on dit que c'est une forme de soulagement. Mais vous savez, il y a cette formule très triviale de Georges Clemenceau qui disait que le supplice du pal, ça commence bien, ça finit mal. Au fond, c'est un peu ça, un coup d'État et une prise de pouvoir autocratique. C'est que tous ces personnages, en général, leur début, c'est une forme d'état de grâce. Parce que, justement, ils viennent après un régime exténué, après un fou furieux, etc. etc. Mais toutes ces promesses du début, ouverture sociale, changement,
élection libre,
etc., tout ça se délite, d'autant plus qu'au fil des ans, l'entourage des courtisans finit par les persuader que, oui, chef, il n'y a que vous, Hein, il n'y a que des imposteurs ou des aventuriers qui prétendent un jour monter sur votre trône.
En étant plus léger, votre livre, Vincent Hugues, est truffé d'anecdotes et de témoignages assez surprenants. Alors, les amateurs de sport connaissent le match de boxe organisé entre Mohamed Ali et George Foreman. C'était pas à Las Vegas, mais dans un stade de Kinshasa. Ce qu'on connaît moins de Mobutu, c'est que, là encore, pour se faire remarquer, il avait lancé un programme spatial zaïrois.
C'est génial. Et là aussi, quand vous regardez les archives vidéo de l'époque, vous dites, bon, si la palette graphique était aussi sophistiquée à l'époque qu'aujourd'hui, c'est un hoax, enfin, c'est une fake news. Eh bien non, vous avez cette image que je décris dans le bouquin, absolument incroyable, de cette fusée qui s'arrache péniblement du haut d'une falaise, et ce que j'appelle une fusée sol-sol, qui décrit une pénible montée et qui vient s'écraser. Et là, il y a Mobutu qui essaye de faire contre mauvaise fortune bon cœur et fin d'écouter les explications techniques du Margoulin qui lui a vendu ce projet dément. Donc oui, mais il y a toujours cette idée aussi de montrer qu'on est à la hauteur d'eux, alors par sa fortune, par ses achats immobiliers, y compris sur les bords de Seine, par exemple, mais aussi par l'innovation technologique, l'accueil d'un événement sportif planétaire. C'est un exemple caricatural, mais très très éloquent.
Et puis ce sont des roublards, évidemment. Il y a une autre anecdote qui vient du Togolais Nassim Beyadema, celui qui a des têtes de lion conservées dans son frigo. Il s'est fait un plaisir de piéger l'ambassadeur de France au balcon.
Ah oui, ça c'est une anecdote que raconte donc Bruno Delay, qui sera conseiller africain de François Mitterrand, mais aussi ambassadeur à Lomé. Et après une discussion un peu âpre sur la démocratisation, il l'emmène, je dirais presque à son corps défendant, devant une fenêtre. Là, les rideaux s'ouvrent et il est bras dessous avec l'ambassadeur, traquenard absolu, avec une foule en bas qui dit « oui, on veut le président, etc. » Ça passe évidemment en ouverture du JT du soir et message chez Lumina, vous voyez bien que la France est avec moi.
Allez-y, on est furieux. Merci Vincent Hugues, grand reporter, essayiste, auteur de ce livre « Tyran d'Afrique » aux éditions Perrin. C'est passionnant, c'est surprenant. À bientôt, Vincent Hugues, dans le Carnet du Monde.
Merci, avec plaisir.
Europe 1, les Carnets du Monde. Jean-Sébastien Soldaini.
Voilà sûrement le trajet le plus périlleux de ces carnets. Une route migratoire peu connue, le passage du Darién. Une jungle inhospitalière à cheval entre Colombie et Panama. Un entonnoir entre Amérique du Sud et Amérique centrale où s'engouffrent chaque année des dizaines de milliers de migrants à pied dans une épaisse végétation. Ils veulent gagner l'Amérique du Nord. Beaucoup d'entre eux espèrent continuer leur route jusqu'aux États-Unis. Pour en parler, nous rejoignons Laurence Cuvillier, notre correspondante au Mexique et en Amérique centrale. Bonjour Laurence.
Bonjour Jean-Sébastien.
Vous vous êtes rendu dans le Darién à la rencontre de ces migrants et l'endroit est très difficile d'accès.
Oui, en fait, je suis allée dans la partie nord du Darién, dans le village de Barro Chiquito, où vit une communauté indienne de l'ethnie Embera. Quand je parle de village, il faut vous imaginer une cinquantaine de petites maisons en bois, abîmées par l'humidité constante. On ne peut y accéder qu'accompagné de la police des frontières, en empruntant une piste en mauvais état, qui d'ailleurs est impraticable une bonne partie de l'année à cause des pluies. Alors au moment où j'arrive, le village est en pleine effervescence. La police est en train d'organiser le transfert en pirogue de quelques 300 migrants venus du monde entier et arrivés quelques jours plus tôt. Ils vont être transférés vers un camp où ils passeront une quatorzaine sanitaire avant d'être emmenés, toujours par la police, jusqu'à la frontière avec le Costa Rica.
J'ai deux Somaliens, 8 Haïtiens et 2 Haïtiennes. Oui, un enfant chilien, ça fait 13 au total dans cette pirogue.
Ils viennent de partout, d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud. Ils fuient la guerre, la violence, la pauvreté, souvent rendue plus insoutenable par la pandémie. C'est le cas de Hanis, un ingénieur palestinien.
J'ai 4 enfants. Ils sont tous premiers de leur classe. Ils sont très intelligents. Je veux juste leur offrir un meilleur avenir.
L'embarquement est chaotique parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde.
Reculez, reculez s'il vous plaît.
Hey, lui c'est mon mari, il doit venir avec moi.
C'est le mari de cette fille ?
Oui.
Ok, faites-le monter.
Et pour les autres, louper cet embarquement veut dire rester un mois de plus dans ce village sans infrastructure d'accueil et sans docteur, alors que beaucoup arrivent malades ou blessés après une odyssée à pied dans la jungle, comme cette jeune Burkinabé dont le pied gonflé est en train de s'infecter.
Je n'avais pas de chaussettes dans mes baskets et avec l'eau et l'humidité, ça me blessait.
Combien de temps vous avez marché ?
7 jours.
Laurence, 7 jours de marche, c'est quand on a de la chance et qu'on ne se perd pas en route.
Oui, parce que le Darién est une jungle infestée d'insectes, de serpents. Aucune route ne la traverse. Et au danger naturel, il faut ajouter celui des brigands qui volent aux migrants épuiser leurs maigres possessions. Amy, une Camerounaise de 24 ans, est sortie terrorisée de la traversée.
Là-bas, c'était pas facile, surtout la forêt. Là-bas, on subit beaucoup d'agressions. Oui. Et aussi, quand on ne connaît pas la route là-bas, on se perd, il faut remonter les montagnes, les gens tombent, c'est très difficile. Le pire moment, c'est le fait que tu n'as pas mangé, mais tu dois marcher. Tu ne marches pas vite, on te laisse. Les autres avancent et toi, tu restes là-bas. Il y a des gens comme ça qui étaient fatigués, on les a laissés là-bas et ils meurent.
Les agresseurs ne sont jamais loin. D'après les témoignages, ils ont les traits et la stature des Indiens de la zone, des hommes qui auraient fait du détroussage des migrants leur principale source de revenus dans une région sans activité économique.
Quand vous marchez à côté de l'eau, ils sautent, ils vous regardent, ils vous surveillent. Quand vous voulez vous coucher, c'est là qu'ils viennent. Ils viennent dans la nuit, ils disent tout le monde, argent, quand tu n'as pas d'argent, ils te violent. Souvent, ils cherchent de l'argent, ils te font du mal. Et c'est mieux de rester au Cameroun, même si mon pays traverse une période très difficile de crise. Je leur dirais de rester, persévérer, parce que ce chemin, franchement, moi-même, je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver ici.
Ouais, tout ça fait froid dans le dos. Mais Laurence, pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde sur cette route? Est-ce que c'est une constante, c'est un flux régulier, ou est-ce qu'on assiste à un pic de migration en ce moment?
En fait, la route est très fréquentée depuis plusieurs années, mais en ce moment, il y a un double appel d'air. Tout d'abord, après plus d'un an de pandémie, les frontières commencent à se rouvrir, particulièrement en Amérique centrale, où des pays comme le Costa Rica et le Salvador se sont littéralement blindés pendant plusieurs mois, formant une sorte de bouchon migratoire. Et puis, il y a eu l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, qui a fait naître des espoirs, souvent infondés, d'une entrée plus facile sur le sol américain. Et enfin, il y a des crises qui se prolongent et qui mettent des milliers de gens sur les routes, comme la situation au Venezuela. Et c'est à Panama City, dans un centre d'accueil catholique, que nous avons rencontré Lucélia Quiroz, son mari et ses deux enfants. Ils se remettaient de la traversée du Darién et attendaient la réouverture de la frontière du Costa Rica pour poursuivre leur route.
C'est la première fois que je sors du Venezuela. On ne fuit pas tant la crise économique que le régime de Maduro. On est persécuté politiquement. On ne peut pas y retourner.
Le gouvernement de Nicolas Maduro invoque un manque de papiers pour justifier le blocage de l'émission de passeports pour les Vénézuéliens. Alors la famille de Lucélia n'a pas eu d'autre option que la sortie clandestine et le passage par le Darién.
On est entré dans la jungle le 19 décembre et on est arrivé le 2 janvier à Barro Chiquito. On s'est perdu, on a dû revenir sur nos pas, tourner en rond, parce que dans la jungle, tout se ressemble. On se sentait pris au piège, on pensait qu'on allait mourir.
Les deux petits garçons de 8 et 10 ans étaient bien sûr les plus vulnérables.
On a fait un bout de chemin avec ce couple haïtien qui venait avec ses deux enfants, un garçon et une fille. Et la petite fille est morte, noyée. Il y a des cours d'eau partout et quand tu traverses, les courants sont parfois forts. Si tu ne sais pas nager, tu te fais emporter et tu te noies.
Je suis restée en contact avec Lucélia et sa famille. Ils sont en ce moment au Costa Rica et reprendront bientôt leur route vers les États-Unis.
Et des témoignages poignants, surtout quand on sait que ces migrants ne sont pas au bout de leur peine, car après la jungle du Darién, il leur faudra traverser le désert du nord du Mexique pour se retrouver littéralement au pied du mur à la frontière avec les États-Unis, alors qu'en ce moment, un afflux record de migrants d'Amérique centrale oblige l'administration Biden à maintenir les blocages à l'entrée du pays. Merci beaucoup, Laurence Cuvillier, correspondante d'Europe 1 à Mexico.
Merci Jean-Sébastien.
Notre voyage se poursuit dans un instant en compagnie de Joseph Chovanec. Ce sera entre verre et miroir, de la couleur dans des sanctuaires iraniens. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, les carnets du monde. Jean-Sébastien Soldaini.
L'hôte de ces carnets change le temps d'une semaine, mais les tauliers, eux, ils restent. Et un carnet du monde ne se referme pas sans le voyage en autistan de Joseph Chovanec. Bonjour Joseph.
Bonjour Jean-Sébastien, bonjour à tout le monde.
Vous nous transportez chaque semaine dans le monde tel que vous le percevez, vous, passionné de voyage, philosophe, autiste Asperger. Vous nous emmenez boire un verre aujourd'hui, c'est ça ?
Ben, ces derniers temps, le rêve de beaucoup, c'est de boire un verre. Pendant des années, en bon enfant puis jeune autiste, je ne comprenais pas cette expression « boire un verre », car les non-autistes qui l'utilisent boivent non pas le verre, mais son contenu. Ou pire encore, ils ne font que socialiser autour.
On ne respecte plus rien.
Oui, et on ne s'intéresse pas au verre en tant que tel. Désormais, en Europe occidentale, on a une conception tout à fait utilitaire du verre. C'est ce qui tient nos boissons. On ne le remarque quand ça se casse. Mais ailleurs, le verre garde sa noblesse. J'ai constaté ça au début de ma période iranienne. Et ce fut un vrai choc. Au lieu d'avoir sur les murs, par exemple, des tableaux, en Iran, il est tout à fait courant d'avoir du verre. Ou plutôt des fragments de verre, comme autant de milliers de petits miroirs qui scintille à l'infini. Et peut-être que c'est ainsi que l'on se sent lorsqu'on est, situation tout à fait hypothétique, plongé dans un diamant. Et mieux encore, cette décoration surprenante pour un occidental semble être en Iran un signe de luxe, de richesse, puisqu'on la retrouve avant tout dans les palais ou bien sûr dans les sanctuaires prestigieux.
Pour ça, les Iraniens savent faire.
Ah oui, et je n'oublierai jamais la nuit entière que j'ai passée à marcher dans les couloirs du lieu le plus saint de l'Iran, à savoir l'immense mausolée de l'imam Reza, à Mashhad, c'est dans l'est du pays. Le chatoiement des reflets à l'infini crée une sorte d'ambiance surnaturelle que la dévotion des fidèles accentue encore. En Iran, toujours la glaçure bleue des plats décoratifs, et non seulement une sorte de summum de l'artisanat que l'on trouve dans toutes les maisons dignes de ce nom, mais donne également presque un étrange avant-goût du paradis.
Alors le verre est négligé chez nous et vous trouvez que les miroirs le sont aussi.
Mais c'est que les miroirs à l'occidental n'ont rien à voir avec ceux par exemple de l'Orient. Les miroirs en Occident, par exemple à la Galerie des Glaces à Versailles, ont pour objectif premier de refléter aussi fidèlement que possible la réalité. Par exemple les costumes des grands de ce monde, la pompe royale, que sais-je. Je me souviens d'un cours de science des miroirs que m'avait dispensé c'est un vieux connaisseur dans un château de Bukovina. Aujourd'hui, c'est en Ukraine, mais naguère, c'était la région la plus orientale de l'Autriche-Hongrie. Les miroirs les plus précieux, à 7 couches, si ma mémoire est bonne, étaient conçus de telle sorte qu'on ne pouvait apercevoir leur structure qu'en approchant sous un certain angle la flamme d'une bougie. Le miroir, en tant que tel, avait pour mission de disparaître et privant de ce fait les Occidentaux des expériences presque mystiques des miroirs à l'oriental.
Mais alors, Joseph, on aurait perdu tout savoir-faire en Occident.
Non, ce n'est pas vrai. Samedi, j'ai pu le constater. J'ai bénéficié d'un privilège rare. J'ai pu assister à une sorte d'initiation faite par un maître verrier dans une abbaye près de Bruxelles. Les maîtres verriers forment une sorte de guilde comme dans l'ancien temps, un monde parallèle avec des valeurs communes, des lieux de rencontre bien à eux, sans suivre les frontières géopolitiques traditionnelles. Et comme me l'a expliqué mon maître d'un jour, leur basculement se fait souvent par la découverte du feu. Mais attention, pas du feu ordinaire à flamme orange de quelques centaines de degrés à peine, mais du feu à flamme blanche intense, celle que l'on obtient par injection d'oxygène dans la flamme et dont la température dépasse les 1400 degrés, à laquelle se produit le miracle, c'est que la silice fond et devient vert. C'est une expérience qui marque quand on la vit pour la première fois. Et on peut s'imaginer de revivre à plus de 5 millénaires de distance l'effarement qu'a dû être celui quelque part en Mésopotamie, des adeptes du culte du feu, lorsque un jour ils parvinrent à faire un tel bûcher qu'ils dépassèrent la température critique et que leur dieu transforma leurs offrandes en parois de verre. Alors, une lointaine histoire, celle du monde d'avant le monde, mais peut-être pas, parce que au fin fond des déserts d'Iran subsistent encore des temples du culte du feu, par exemple à Yazd, où brûle depuis tant de siècles sans discontinuer un feu sacré que j'ai pu voir. Et on aurait presque envie de murmurer ces vers de Jalaluddin Rumi, le maître ultime des poètes soufis. On a attaché Shahvat Kechos Safosad et Asbenga Chengoran qui a son otachost. La passion de ce feu si pur et si simple. Regarde comment on croit le bien-aimé.
Quel accent, Joseph, et cette sagesse soufie. Soufie, ça vient peut-être d'un mot qui veut dire pureté cristalline. Vous voyez, on retombe sur le verre, Joseph. Merci beaucoup et à très bientôt.
À tout bientôt, au revoir.
Les carnets du monde se referment, ce sont des bouquins que vous ouvrez désormais avec Nicolas Carreau dans La Voix et Livre. Vous recevez qui cette semaine, Nicolas ?
Je reçois Bernard Minier pour son nouveau thriller La Chasse et nous visiterons la bibliothèque de Michel Field.
A tout de suite. Pour ma part, je rends son fauteuil à Sophie Larmoyer que vous retrouverez dimanche prochain à 13h avec la même équipe, celle qui m'a plus qu'épaulé dans la préparation et la réalisation de cette émission. Je parle de Marion Gauthier, de Marc Fréjean. Bonne semaine et à très bientôt.